Hello, bienvenue dans Boost à recherche d'emploi podcast. Je suis Vanessa Choubia, ingénieure chimiste de formation. Je travaille actuellement dans l'industrie cosmétique. Je suis également entrepreneuse sociale. Boost à recherche d'emploi est un rendez-vous mensuel pour discuter en toute simplicité des stratégies de recherche d'emploi. À chaque épisode, les invités en toute humilité nous feront découvrir leur métier et les moyens qu'ils ont utilisés pour intégrer le milieu professionnel. Il ne s'agit pas ici de portraits de super-héros ou de modèles à suivre, mais j'espère qu'à travers leur parcours inspirant, vous y trouverez une bonne dose de motivation, ainsi que plein d'astuces pour mener à bien votre recherche de job, tout en ayant une bonne confiance en vous. Je vous invite à vous installer confortablement et vous souhaite une belle écoute. Prenez soin de vous. Je reçois aujourd'hui Woody, diplômée d'Hydrag Business School, consultant senior chez AS et Associés, cabinet spécialisé dans la création et gestion de patrimoine. Hello Woody.
Salut Vanessa.
Comment tu vas?
Ça va, je vais très bien. Et toi?
Ça va très bien, merci. Ravie que toi aussi. Woody, je voulais te dire, je suis très ravie de t'accueillir sur le podcast pour partager ton retour d'expérience.
Ça va, un plaisir également.
Parfait. Alors, avant de commencer, Woody, je te propose d'organiser notre échange en trois temps. Premièrement, je te laisserai te présenter.
D'accord.
Ensuite, nous discuterons des difficultés que tu as rencontrées, des stratégies que tu as mises en place pour intégrer le milieu professionnel. Enfin, nous ferons un petit focus sur ton poste actuel afin d'en savoir un peu plus. Ça te va?
Ça me va.
Cool, alors c'est parti. Alors Woody, qui es-tu? Peux-tu te présenter à nos auditeurs?
Je suis Woody Adoutevi, je suis togolais d'origine, actuellement senior consultant au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine. J'ai un parcours qui est assez classique, hein. Je suis sorti d'école de commerce il y a de cela 8 ans maintenant. J'ai fait un master en finance de marché à l'Hydrag Business School. Après, avant cela, j'ai également étudié hors de la France. J'ai bourlingué un tout petit peu. J'étais en Espagne, en Angleterre et finalement en France. Et mon premier poste sur du moyen terme, c'est celui que j'occupe aujourd'hui au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine en tant que senior consultant. Voilà.
D'accord, très intéressant, notamment ton parcours à l'étranger. Concernant tes études, j'ai plusieurs questions. Donc la première, c'est de savoir pourquoi as-tu choisi le domaine de la finance, du business comme spécialité?
Pourquoi j'ai choisi le domaine de la finance? Alors moi, je suis quelqu'un d'assez obstiné dans la vie de tous les jours. Donc depuis même ma première année d'école de commerce, on va dire, je savais ce que je voulais faire. Je voulais travailler soit dans le domaine du trading ou de la finance de marché. Donc, c'est un domaine qui m'a toujours exalté. Et ça n'a pas été facile au début. Mais pourquoi? C'est parce que je suis passionné par les chiffres, je suis passionné par la gestion de projet, je suis passionné par les gens, par le suivi de projet des gens. Donc, c'est à la fois un choix... j'ai envie de dire, stratégique et de passion. Voilà.
D'accord, je vois. Et quand tu dis que ça n'a pas été facile, c'est pourquoi? C'est parce que, comme tu dis, t'es passionné par la gestion de projet, par le contact humain. Enfin, peux-tu préciser en quoi ça n'a pas été facile?
Ça n'a pas été facile parce qu'à la sortie d'école de commerce, après, je pense que c'est le cas de... la plupart de jeunes diplômés, hein, faut savoir mêler une certaine logique fine et une vision globale de sa carrière. Donc, on ne fait pas tout de suite ce qu'on a envie de faire, mais il faut juste pas perdre de vue son objectif et puis dès le départ savoir où on se voit dans 5, dans 10 ans. Donc, ça n'a pas été facile parce que les premières années, j'ai pas tout de suite été consultant en gestion de patrimoine, quoi.
Très bien, très intéressant. Et peux-tu nous dire pourquoi ensuite, parce que j'ai noté que tu as fait du management des entreprises, en tout cas tu as fait une spécialisation dans le management des entreprises, pourquoi Et qu'est-ce que ça t'a apporté en plus dans ta recherche d'emploi ?
J'ai un cursus assez atypique. J'ai d'abord fait un bachelor en finance de marché. Et le master, pour moi, lorsqu'on fait un master, c'est pour se spécialiser dans un domaine de management. Donc j'ai fait management et développement à l'international des entreprises parce que je me voyais à terme occuper un poste de manager dans le domaine de la finance. Maintenant, le fait d'avoir fait ce master-là, typiquement, ça m'a forcément beaucoup aidé parce que c'est les diplômes en France essentiellement comptent. La formation que j'ai eue à l'IDREC a été une formation qui était très axée pratique. J'ai eu des cas pratiques, j'ai été mis en situation de management d'équipe. Donc c'est une formation qui a été très très édifiante dans ma recherche d'emploi, clairement.
D'accord. Du fait de vraiment sa praticité, d'avoir des cas concrets, c'est bien ça?
Exactement.
Ok. Ensuite, j'aimerais qu'on revienne sur tes études réalisées à l'étranger. C'est l'IDRAC que tu as fait à l'étranger ?
Non, pas du tout. J'ai fait une école de commerce également qui s'appelle La Salle Business School, qui est l'une des écoles de commerce les plus reconnues d'Espagne. C'était à Barcelone. Donc, j'ai fait mon bachelor là-bas. J'ai fait quelques temps en Erasmus en Angleterre.
Voilà. Très, très bien. Intéressant. Comment tu t'y es pris pour accéder à ces écoles à l'étranger ?
Comment je m'y suis pris ? Il faut dire que j'ai une formation même secondaire qui est très anglo-saxonne. J'ai eu mon bac à l'école américaine du Togo, à Lomé. La suite logique aurait été que je fasse une école de commerce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en tout cas une formation en anglais. Donc l'opportunité s'est présentée à moi d'avoir été accepté par une école de commerce qui était en anglais mais qui se trouvait en Espagne. Donc je me suis dit autant faire d'une pierre deux coups, je pouvais à la fois suivre mes cours en anglais et dans la vie de tous les jours apprendre l'espagnol. Et c'est principalement la raison pour laquelle ça me permettait aussi de découvrir un autre univers, une autre culture. C'est pour ça que j'ai choisi de faire mes 4 premières années d'école de commerce en Espagne.
Tout à fait. Et concernant l'accession à cette école en termes de candidature, de dossier, est-ce que tu as une préparation particulière ou pas du tout? C'était une candidature plutôt classique?
Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas eu vraiment de filtre à l'entrée. L'école est reconnue en termes de diplôme, mais sur la sélection, après, il faut dire aussi qu'on aime bien les étudiants dits internationaux. Donc, il n'y a pas eu de concours à l'entrée.
C'est clair. Donc, en fait, je comprends qu'aujourd'hui... Aujourd'hui et même à cette époque-là, tu étais déjà bilingue du fait d'avoir fait une école secondaire, école américaine. Donc, tu n'as pas eu de soucis avec l'anglais?
Non. Je parlais, j'ai même à une époque perdu mon français. Je parlais mieux anglais que français. j'ai eu le temps depuis, je pense, de rattraper le gap.
D'accord. Et parlons un petit peu de finance, parce que comme tu sais, Woody, la finance, c'est un facteur non négligeable et à anticiper, notamment quand on veut réaliser une formation. Donc j'aimerais savoir combien ça t'a coûté financièrement, enfin juste un ordre d'idée.
Combien ça m'a coûté financièrement? Combien ça a coûté essentiellement à ma famille, parce que j'étais à charge à l'époque. Encore. C'est vrai. Il faut pas se raconter des cracks, faut se dire les choses. Les écoles de commerce aujourd'hui, en général, les meilleures écoles sur le CV sont assez onéreuses. Donc, c'est vrai que ça a un coût. Ça a un coût qui va de l'ordre de quelques milliers d'euros, voire des dizaines de milliers. Mais c'est un investissement qu'il faut faire. Je pense que lorsque les parents décident de le faire, c'est qu'ils fondent un certain nombre d'espoirs en toi, quoi. Donc ça a eu un coût, effectivement.
D'accord. Et pour les personnes dont les parents ne peuvent pas supporter ce type d'études, quels conseils apporterais-tu ?
Bah, il y a pas mal de circuits courts aujourd'hui, hein. Il y a pas mal de formations qui sont soit gratuites ou qui sont pas très chères, j'ai envie de dire. Et je pense même qu'ils, sur le marché du travail, sont équivalents aux diplômes d'écoles de commerce, autres qui sont très très onéreux. Et si on prend le lot d'écoles de commerce aujourd'hui, à vrai dire, à part le top 5, surtout en France, hein, c'est le top 5 des écoles de commerce qui tout de suite sont à l'œil, toutes les écoles pour le marché du travail se valent. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, en tout cas dans le contexte actuel, il n'y a pas vraiment de... On n'a pas à rougir parce que on a suivi des formations en ligne gratuites ou pas chères par rapport à ses amis qui ont fait des écoles assez chères, quoi. Le marché du travail, il est ouvert à tout le monde.
C'est très intéressant ce que tu partages. Vraiment, c'est pas de complexe, hein. Alors, Oudi, pour clore cette phase de présentation, donc, du coup, on peut retenir que lors de ces études, je reprends tes mots, hein, je vais te citer, il faut mêler logique fine et vision globale et surtout ne pas perdre en vue ses objectifs.
Oui.
Qu'il faut privilégier également à un moment des formations pratiques, hein, donc qui nous permettent de nous préparer au marché de l'emploi.
Oui.
Et surtout qu'il ne faut pas être complexé vis-à-vis de l'école qu'on peut effectuer dans la mesure où finalement sur le marché du travail c'est la compétence qui prévaut et voilà, donc ne pas se laisser limiter par la question financière en tout cas.
Exactement, c'est cela.
À présent, je te propose de rentrer dans la deuxième phase de cette discussion qui concerne ta recherche d'emploi.
Ok, ça va.
Let's go! Avant d'intégrer ta boîte actuelle, quel a été ton parcours pro, à savoir les stages significatifs que tu as réalisés et les emplois que tu as effectués? Je sais que tu as commencé à en parler précédemment, oui. Mais est-ce que tu peux revenir rapidement là-dessus?
Mon parcours, comme je disais tout à l'heure, il a été assez atypique. Déjà, mon année de master, j'aurais dû le faire en alternance. J'ai pas trouvé d'alternance tout le courant de l'année. J'ai fini par un stage en fin d'année. Donc, c'était mon premier stage à l'époque que j'ai dû faire à l'étranger, que j'ai fait au Togo au sein d'une boîte d'assurance. Et par la suite, j'ai refait un stage ici même en France au sein d'une entreprise du secteur numérique. J'ai été ingénieur d'affaires pendant 2 mois, ensuite 6 mois, par la suite j'ai voulu créer mon entreprise. Donc j'ai souhaité quitter, en tout cas arrêter tout ce qui est recherche d'emploi en tant que salarié et monter mon entreprise. J'ai eu 2 ans d'expérience en tant qu'entrepreneur. Ça m'a beaucoup servi d'ailleurs parce que ça m'a permis de voir un peu le revers du décor, comment c'est difficile de mener à bien ses idées, de trouver les financements, de trouver des partenaires, surtout de vendre son service, ses produits. Et 2 ans après, effectivement, c'est là où je disais tout à l'heure qu'il faut à la fois mêler une certaine logique. Logique dans le sens où il faut se dire que il y a très peu de choses qui sont à la fois bénéfiques sur le court et le long terme. Il faut se dire que moi, par exemple, voulant être entrepreneur, je savais très bien que j'allais prendre des coups durs, mais je me projetais vraiment sur le long terme. Donc les 2 ans, ça a été une expérience qui aujourd'hui a clairement forgé la personnalité que j'ai. Et même lorsque je suis revenu sur le marché de l'emploi, la recherche d'emploi, elle n'a pas été simple, elle a été assez difficile. Surtout que personnellement, je suis pas vraiment un homme de réseau. Je suis
tu devrais, Oudi.
Si. Je me suis corrigé depuis lors, hein, heureusement. En fait.
C'est très important. Hein.
Mais il y a 5-6 ans, j'étais. J'aimais pas vraiment les effets de manche, concrètement. Donc, j'ai pensé les premiers mois que la recherche classique, l'ancienne recherche d'emploi en envoyant des CV et en essayant de passer des coups de fil, aboutirait forcément. Je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Enfin, c'est nécessaire, mais ce n'est pas forcément la seule chose à faire. Il fallait essayer de réseauter. Il fallait connaître les dates des forums d'entreprise, les after-work, les prendre contact, reprendre contact avec son association d'anciens élèves d'école de commerce, passer pas mal de coups de fil et puis rencontrer les gens pour parler d'autres choses que recherche d'emploi. Voilà. Et c'est ça qui, essentiellement dans mon cas, ça a été une transformation clairement parce que je n'étais pas de nature, nature comme ça, mais j'ai appris à le faire. Ça permet aussi d'apporter d'autres cordes à son arc. J'ai participé à pas mal de forums, j'ai eu pas mal d'entretiens. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai eu des propositions qui ne m'allaient pas. C'est en ce sens-là que je te disais que des choses qui sont bénéfiques sur le court terme ne sont pas forcément sur le long terme. Il faut savoir aussi dire non. Lorsqu'on est en recherche d'emploi et que les propositions qui vous sont faites ne sont pas celles que vous voulez. Donc, j'ai attendu jusqu'à ce que la proposition que je voulais réellement, qui est celle de consultant en cabinet de gestion de patrimoine, concrètement, je voulais soit travailler dans le domaine de la gestion de patrimoine ou dans le domaine de l'asset management. Donc, c'était soit l'un ou l'autre. Ça veut dire aussi que je n'avais pas de plan forcément rigide. Et c'est au détour d'un after-work, je peux le citer peut-être, c'est Doc Finance, c'est un after-work Doc Finance, j'y étais, j'ai rencontré les associés de mon cabinet actuellement, qui sont mes employeurs. Il n'y a même pas eu de premier contact par CV, il y a plus eu discussion, et on s'est rappelé la semaine d'après, j'ai eu des entretiens, il y a eu premier, deuxième, troisième entretien, et c'est par la suite que j'ai été pris dans ce cabinet-là. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai eu plusieurs vies. Il y a eu les stages, ensuite il y a eu la phase d'entrepreneur, et puis aujourd'hui la phase de salarié.
Très intéressant, Oudi. C'est aussi pour ça que je tenais vraiment à t'avoir sur ce podcast, parce que je sais que tu as un parcours atypique et très intéressant, hein, du fait d'avoir connu l'entrepreneuriat, connu les difficultés de l'entrepreneuriat, et aussi à un moment comme ça, comme tu dis, il faut être vraiment souple et être revenu finalement au salariat. Et enfin, moi, j'ai trouvé ça juste génial, et je me suis dit non mais voilà, il y a tellement de choses à apprendre que j'avais vraiment envie que tu le partages avec l'ensemble de nos auditeurs. T'as commencé aussi également à les évoquer. Voilà, j'anticipe quand même pas mal mes questions, c'est super fort. Donc en fait, t'as parlé des difficultés, des challenges que tu as rencontrés.
Oui.
Et j'aimerais que tu reviennes un peu là-dessus, en fait. Notamment, c'est à quel moment que tu as eu les plus gros challenges, les plus grosses difficultés dans ton parcours professionnel jusqu'ici ?
Plus la recherche d'emploi ou lors de l'exercice de l'emploi ?
Dans ta recherche, vraiment quand tu te cherchais, de ce que tu voulais faire, de...
Dans ma recherche, c'est ce que je te disais, j'ai une nature un peu taiseuse, j'ai une nature un peu pas très communicative, donc je ne suis pas un homme de réseau concrètement. Donc la première difficulté a émané de là, c'était du fait que j'avais pas vraiment su consolider mon réseau d'anciens camarades d'école, mon réseau d'anciens stagiaires, de maîtres de stage, enfin, ce que font la plupart des personnes lorsqu'ils sont en école aujourd'hui.
Tout à fait.
J'ai pas vraiment su nourrir, entretenir ce réseau-là. Donc, au tout début de ma recherche, je me suis retrouvé un peu scellé. Je savais pas forcément, si ce n'est faire des recherches sur les entreprises dans lesquelles je voulais travailler, j'avais pas vraiment de personne à contacter qui pourrait m'introduire ou me recommander.
Ok.
Donc la première difficulté vient de là. La seconde difficulté, clairement, c'est que on doit envoyer maintes fois son CV. On doit faire maintes entretiens. Après, ça, personnellement, ça ne m'a pas vraiment dérangé parce que je suis un optimiste. Je suis un optimiste actif, j'ai envie de dire. Donc, ça ne m'a pas vraiment embêté de devoir. Je savais dès le départ. Et c'est ça, il faut savoir dès le départ aussi que c'est un chemin qui est jonché d'épines. Hein. C'est, on prend des coups. C'est comme ça, ça se fait pas du jour au lendemain, mais comme je disais, c'est pas parce qu'on prend des coups qu'il faut non plus accepter ce qui n'est pas dans son plan de carrière. Donc les difficultés venaient du fait que j'avais pas un réseau assis, et aussi parce que il fallait aller à différents entretiens avec des fois un sentiment de préjugé, un sentiment de mépris, mais si les choses sont ainsi faites, quoi. Voilà.
D'accord, c'est clair. Et du coup, aujourd'hui, tu travailles pour un cabinet.
Oui.
Est-ce que c'est un choix? Est-ce que... Ah oui, avant même de te poser cette question, j'aimerais juste revenir parce que tu as dit... il faut pas accepter tout et n'importe quoi, faut vraiment qu'accepter que ce qui est dans notre plan de carrière. Oui. Mais tu sais qu'à un moment on a des charges, il y a la vie, quoi, enfin faut continuer à vivre. Comment on fait?
Je sais pertinemment, c'est le challenge, il est là en fait pour moi. C'est je connais personnellement, hein, je connais pas mal de personnes qui parce qu'ils ont des contraintes budgétaires, parce que le coût de la vie est très cher en France, parce que ça mettait du temps à vraiment se mettre en place comme ils l'auraient souhaité, à un moment donné, ils ont dû accepter moins que ce qu'ils voulaient. Mais le risque, c'est vraiment soit de perdre du temps sur ces postes-là qui, normalement, sont supposés être des sortes de postes intermédiaires, mais qui deviennent des postes permanents, ou soit simplement de rester là-dedans et ne jamais se remettre en selle par rapport à la formation qu'on a eue.
Absolument.
Je prends mon exemple, c'est lorsque j'ai quitté Barcelone, je voulais travailler dans le monde du trading ou de l'asset management à Londres, en Angleterre. Arrivé en Angleterre, j'avais plus des propositions comme professeur de français, comme comme des fois coach sportif, enfin, des choses qui n'ont rien à voir avec la raison pour laquelle j'étais là. Je me serais peut-être embarqué là-dedans. C'est vrai que d'un point de vue financier, les propositions pourraient être intéressantes pour un jeune diplômé qui n'a jamais vraiment su se prendre en charge, qui n'a jamais gagné sa vie. Mais c'est là où il faut vraiment rester tête froide et avoir un plan de carrière dès le départ. Et je ne peux pas dire que tout le monde devrait faire comme moi, mais il ne faut pas être obstiné forcément comme moi je pourrais l'être. Mais en tout cas, ne pas tomber dans tout et n'importe quoi. Voilà.
Ok. À présent, je vais conclure cette phase, hein, cette phase liée à ta recherche d'emploi, en reprenant quelques points clés que tu as abordés, notamment carrière et s'y tenir. Ne pas être forcément obstiné, mais c'est important de tenir son plan de carrière.
Oui.
Tu as également parlé de l'importance du réseau.
Oui.
Ouais, je rappelle à chaque fois, et aujourd'hui tu le reconfirmes à ton tour, donc vraiment clé quand on recherche un emploi. L'heure est venue maintenant de parler de ton poste actuel de consultant senior en gestion de patrimoine.
D'accord.
En quoi ça consiste ?
En quoi ça consiste ? Alors, j'accompagne des particuliers et quelquefois entreprises à la mise en place de solutions de placement. J'ai accès à différents véhicules financiers, des véhicules financiers tels que l'assurance vie, tels que les plans d'épargne divers et variés. Les fonds communs de placement, enfin, l'idée c'est accompagner des personnes qui souhaitent avoir des projets de vie, les accompagner sur la création de patrimoine, patrimoine financier et patrimoine immobilier. Et puis au fil du temps, selon le level d'ambition que les personnes peuvent avoir, faire le point et vraiment faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas sur la paille à la retraite, quoi. Voilà. Concrètement, c'est cela le job. Après, il y a différentes ficelles, différents produits adaptés à chaque client, mais en idée générale, c'est cela.
D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite pub. Hein. N'hésitez pas à aller voir Woody, parce que c'est un... il excelle vraiment dans ce qu'il fait, donc voilà, j'en profite pour faire une petite pub quand même. Ok, super. Et si tu avais deux conseils, vraiment deux conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient travailler dans ce domaine, que leur dirais-tu ?
Deux conseils, c'est aimer l'humain, aimer le contact humain. Parce que avoir de l'empathie essentiellement envers les gens qu'on rencontre, parce qu'il y a un aspect business forcément, comme dans tous les métiers de la finance, mais si on n'aime pas les gens, ça se ressent. on a du mal à faire du business, et le second conseil serait la flexibilité dans les horaires, parce que c'est un métier qui demande beaucoup de temps. Et demande du temps, pas forcément sur les heures de travail classiques connues de tout le monde, faut être disponible lorsque les autres le sont. Donc, il faut être flexible, il faut vouloir donner et puis aimer les gens. Voilà.
Très bien. Donc, pour conclure cette phase sur ton métier, on va retenir... que c'est un métier de contact humain, c'est un métier également qui demande beaucoup de flexibilité et d'adaptation.
C'est cela.
Cool.
Avec un tout petit peu de compétence.
Ah oui, quand même. Quand même. Très bien. Woody, nous arrivons au terme de nos discussions. Mais avant de nous quitter, j'ai une petite question pour toi. C'est la question que j'appelle la question Joker. Alors, tu as le choix entre trois thèmes. Et ensuite, je te poserai la question attenante.
D'accord.
Œuvre d'art, personnage, mantra ou citation ?
Personnage.
Très bien. Alors, quel est le personnage qui t'inspire et pourquoi ?
Un personnage contemporain ou plutôt historique ?
Comme tu veux, t'as le choix.
Bon, je pense Thomas Piketty. Thomas Piketty, l'économiste qui parle essentiellement d'inégalité. Pourquoi ? Parce que des économistes de renom et qui pointent du doigt comme ça les inégalités dans la société, les choses qui pourraient être corrigées, qui en plus apportent une analyse très objective et pragmatique sur ces sujets-là, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'il traite des sujets de fond, c'est un économiste humaniste, on peut dire. Voilà.
Intéressant, économiste humaniste. Parce que c'est vrai que dans l'économie, des fois... on se dit oui, l'humain n'est pas au centre de l'économie, mais non, finalement.
Exactement. Ça dépend de l'angle par lequel on prend les choses. il y a beaucoup, beaucoup de sujets. En plus, on est dans un contexte actuel qui fait écho à cela. Il y a beaucoup de sujets comme ça d'inégalité qui peuvent être expliqués et les solutions peuvent être données. Des solutions, comme je disais, objectives par des économistes. Et je pense qu'il y a très, très peu de personnes comme lui qui essaient de donner une vision parée de l'économie. Voilà.
Absolument. Merci pour ce partage.
Compris.
Je vais terminer cet échange en reprenant sommairement quelques points clés que tu as partagés et qui, à mon sens, sont très utiles quand on recherche un emploi ou tout simplement pour la gestion de sa carrière. Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment avoir un plan de carrière défini vraiment dès le départ, s'y tenir, rester flexible, mais quand même ne pas perdre de vue son objectif. Et je retiens également le réseau. Tu as beaucoup parlé de réseauter, de l'importance de se constituer un réseau, parce que c'est vraiment un des points forts, un des atouts quand on recherche un emploi.
C'est cela.
Pour clôturer cet échange, je souhaiterais vraiment te remercier, Woody, pour le temps que tu m'as accordé et surtout d'avoir répondu avec une telle aisance et générosité. J'ai appris plein de choses.
Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de partager tout cela. Enfin, je ne sais pas si c'est un retour d'expérience, mais d'avoir ce partage-là, moi je vois les choses plutôt comme ça. Et merci pour cette idée-là que tu as. Je la trouve assez originale, on en avait parlé en amont, mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir cette façon de faire parler les gens pour inspirer d'autres. Donc je serai toujours présent si bon. Voilà.
Merci à toi. Je te dis à très bientôt, Woody.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Si vous avez trouvé cet épisode utile et intéressant, n'hésitez pas à le liker, le partager autour de vous et vous abonner à ma chaîne Boost à Recherche d'Emploi Podcast. Pour toute question, commentaire, n'hésitez pas à me contacter et à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, Facebook et plus récemment LinkedIn. Je serai très ravie d'échanger avec vous. Portez-vous bien et à très vite.